Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous choisissez notre podcast. Ces derniers mois ont été pour certains d'entre nous des moments propices à la réflexion. Sur nous, notre place dans la société, notre rapport au monde. Je reçois aujourd'hui un sociologue spécialisé dans les questions du numérique. Antonio Casilli va nous expliquer comment la crise du coronavirus a mis au jour les limites de la société du tout numérique et montrer les inégalités induites par les plateformes et certains choix de société. Mais avant cela, rêvons un peu. Et si l'on écrivait collectivement notre futur? Et si l'on rendait concrètes nos utopies? Utopie, c'est le titre d'une série documentaire qui vise à recenser et raconter les utopies concrètes à travers le monde et évoquer leurs potentielles limites. Le projet Utopie est porté par l'équipe du collectif DataGueule, Julien Goetz, Henri Poulain et Sylvain Lapoix, que nous connaissons bien ici à l'Atelier des médias puisqu'on les a déjà reçus. Écoutez-les expliquer leur démarche.
Dites bonjour à Utopie. L'idée est aussi simple que paradoxale. Aller sur le terrain, documenter des utopies réelles, concrètes. Par essence, une utopie du grec ou topos n'a pas de lieu, elle n'existe pas. Et pourtant, notre monde actuel est le fruit d'utopies mises en mouvement. Un marché mondial libre et dérégulé, ou une vaste ZAD autogérée sont des utopies concrètes, palpables. Quelle que soit l'idéologie qui les porte, elles sont là, creusant des trous dans notre présent. Qu'on le veuille ou non, les rêves et les imaginaires de quelques-uns dessinent les réalité de tous les autres. Alors voilà, pour ce nouvel opus documentaire, après avoir creusé les enjeux climatiques et questionné la démocratie, nous avons choisi de partir à l'abordage des utopies.
Une campagne de financement participatif est en cours pour que la série documentaire Utopie voie le jour. Elle s'achève ce dimanche 14 juin à minuit sur la plateforme KissKissBankBank. Place maintenant à mon invité. Il est professeur de sociologie à Télécom Paris et chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, à Paris. Il est l'auteur d'En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, paru en 2019 au Seuil. Bonjour Antonio Casilli.
Bonjour à vous.
Avant de démarrer cette interview, ou plutôt pour démarrer cette interview, j'aimerais que l'on revienne sur le début de la crise du coronavirus et la période de confinement qu'ont connu de nombreux pays à travers le monde, ainsi que leurs effets sur le travail. Racontez-nous, pendant le confinement, ce qu'il s'est passé pour les travailleurs, et plus précisément pour les travailleurs que l'on appelle ceux du dernier kilomètre.
Alors, ce qui s'est passé est que le confinement a finalement été une situation qui a concerné plusieurs pays, qui a été un phénomène planétaire, qui a été d'emblée salué comme le moment de la plateformisation du travail. Alors, cette plateformisation, dans la meilleure des hypothèses, aurait dû prendre la forme du smart working, surtout du télétravail pour tous et pour toutes. Mais les chiffres à notre disposition nous indiquent qu'on n'est pas devenus tous et toutes télétravailleurs. Selon l'enquête menée par la DARES, le ministère du Travail ici en France, le télétravail n'a concerné que 25% de la population active. Et c'est un peu le même chiffre qu'on retrouve dans d'autres pays, d'autres enquêtes qui ont été menées en même temps pendant les mesures de lockdown aux États-Unis ou même en Argentine. Il y aurait donc une sorte de seuil qu'on ne peut pas dépasser, au-delà duquel on ne va pas. Et donc finalement, la question devient qui sont les autres qui ne télétravaillent pas. Alors évidemment, il y a un nombre vraiment important et explosif dans plusieurs pays de personnes qui sont inactives parce qu'au chômage ou parce qu'un congé maladie ou parce qu'un congé paternité ou parental. Mais il y a aussi un nombre important qui, en France, je pense, relève du 27% de la force de travail, de personnes qui sont considérées comme des travailleurs qui travaillent hors domicile. Et parmi les travailleurs qui travaillent hors domicile, qui, pour faire court, comprennent évidemment les travailleurs des hôpitaux, de la grande distribution, de l'entretien, il y a aussi donc des personnes qui sont des travailleurs plateformisés, qu'on a appris à connaître et même à reconnaître davantage pendant le confinement. Je pense notamment aux travailleurs de la livraison, donc les riders de Deliveroo, Frishti, Glovo en Espagne et ainsi de suite. Alors évidemment, ils sont une catégorie particulière des travailleurs des plateformes. Ils font partie de ceux qui ont, pendant le confinement, pu avoir une visibilité plus importante, parce que dans des villes désertes, ils devenaient d'emblée visibles. Dans des villes désertes, on voyait tracer des livreurs qui, par ailleurs, sont devenus de plus en plus nombreux, parce que pour pallier au chômage, plusieurs personnes qui précédemment étaient embauchées ou qui travaillaient dans les secteurs les plus impactés, comme par exemple la restauration, le transport, etc., se sont inscrits sur des plateformes de livraison. Alors du coup, c'est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs, dans la mesure où finalement la concurrence entre eux a augmenté et les plateformes ont pu, tout en faisant semblant de protéger la santé de leurs travailleurs, ont pu baisser les rémunérations, ce qui s'est passé un peu partout dans le monde.
Mais ce qu'on voyait vraiment pendant le confinement, même à Paris, moi qui vis dans Paris intramuros, effectivement, c'était un balai de chauffeurs-livreurs dans des rues totalement désertes. Et là, on se rend compte que dans le dernier kilomètre, ce qu'on appelle mécaniquement le dernier kilomètre, effectivement, l'importance de l'intervention humaine est essentielle.
Oui, on dit dernier kilomètre pour traduire last mile, qui est l'expression anglaise qui désigne en gros les travailleurs qui se trouvent en bout de la chaîne d'approvisionnement de la chaîne logistique. Donc c'est les derniers kilomètres de la logistique. Donc grosso modo, ces plateformes se présentent comme une manière d'automatiser via des algorithmes hyper performants ou dans certains cas grâce à des dispositifs techniques qui finalement ne marche pas et n'existe pas, comme par exemple des drones, des véhicules autonomes, etc. Donc automatiser certains processus productifs, en l'occurrence le transport, la livraison, et en particulier pendant le confinement, ce qui s'est passé est que justement les plateformes de livraison de repas ont commencé à se présenter comme encore plus automatisées qu'avant, en disant par exemple qu'ils assuraient des services de contactless delivery, donc de livraison sans contact. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur final, le mangeur en l'occurrence, par exemple, ne devait pas signer, voire rencontrer le livreur parce que son repas était laissé en bas de chez lui. Mais alors, c'est contactless seulement pour l'un des deux parties impliquées dans cette transaction, parce que évidemment pour le consommateur c'est sans contact, mais il y a énormément de contacts qui restent en place pour les livreurs, lesquels doivent s'interfacer avec les personnels des restaurants, doivent traverser les villes, doivent toucher des surfaces potentiellement contaminées, comme des digicodes, des interphones, des portes et ainsi de suite. Donc du coup, il y a une redistribution du risque pour la santé sur les travailleurs du dernier kilomètre, qui sont donc plus exposés qu'avant et plus exposés que les autres catégories professionnelles, et qui en plus font face aussi à des risques indirects qui sont de nature économique, parce que ils ne sont pas, à la différence par exemple de, que sais-je, les personnes qui sont employées dans le secteur de la santé ou que sais-je, les forces de l'ordre, pour indiquer d'autres personnes qui ont été considérées pendant le confinement comme des travailleurs essentiels, ils ne sont pas encadrés d'un point de vue salarial, ils ne sont pas salariés, ils sont considérés comme des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et donc du coup ils se trouvent face à comment à la gestion de ce risque. Alors face à ça, ils ne sont pas seuls. Ils ont pu, par exemple, dans certains pays, avoir recours à des décisions de justice qui ont, par exemple, obligé certaines plateformes, je pense à l'Italie, à fournir des gants, du gel, des masques à des livreurs. Ou dans d'autres cas, par contre, ils ont dû mettre en place des stratégies conflictuelles, finalement, en provoquant et en menant des grèves. Et là, je pense aux grèves particulièrement efficaces des livreurs en Espagne, mais aussi la grève internationale du monde hispanophone, des travailleurs de la livraison des plateformes hispanophones, qui a concerné pendant le mois d'avril des pays comme l'Argentine, mais aussi le Pérou, le Guatemala, El Salvador, donc bref, des pays qui sont traversés de plus en plus par des vagues de conflictualité.
Si on remonte un petit peu la chaîne logistique, on s'est rendu compte également du fonctionnement, ou en tout cas ça a rappelé le fonctionnement des centres de distribution qui sont cruciaux pour ces grandes entreprises. Donc des entrepôts, des plateformes, ce qu'on appelle les hubs, tous les ronds-points entre l'économie réelle et l'économie digitale. Et là, on a vu en France, dans les entrepôts d'Amazon, des travailleurs qui sont entrés en grève et ont exigé, défendu leur droit de travailler en sécurité, notamment dans la dimension sanitaire.
Oui, et ceci, par contre, ne concerne pas que les travailleurs qui ont un lien avec les plateformes. Évidemment, les centres de distribution de Amazon ont été pointés du doigt parce que dans la meilleure tradition de cette entreprise particulièrement autoritaire dans sa gestion de sa force de travail, il y a eu un oubli, pour ainsi dire, criminel évidemment, des mesures de protection de la santé de leurs travailleurs. Donc il y a eu énormément de grèves, énormément de licenciements et aussi des polémiques internes qui ont déterminé par exemple que au moins un vice-président de Amazon démissionne en solidarité avec les travailleurs qui avaient dénoncé ces conditions de travail. Mais en plus, il faut encore pointer du doigt Amazon parce que Amazon est un excellent exemple de ce que je disais auparavant, de cette sorte de mystification de l'automatisation. Donc, ces entrepôts qui se présentent comme entièrement robotisés, donc la fabrication d'Halle Noire, vous savez, les usines sans travailleurs, en réalité, il s'agit d'usines dans lesquelles les travailleurs doivent interagir avec des robots et doivent interagir en réalisant des tâches, des petites procédures qui consistent à aller prendre un endroit déterminé, par exemple une marchandise, la monter sur tel robot et ainsi de suite. Et ils sont en plus presque télécommandés, ils sont radiocommandés. Et donc, c'est quelque chose qui rappelle des dynamiques plus générales de tâcheronisation du travail qui ne concerne pas exclusivement les entrepôts. Et après, il ne faut pas oublier non plus que les entrepôts qui ont été concernés par ces grèves, par ces actions de revendication des travailleurs ne sont pas exclusivement ceux qui sont liés aux GAFAM. Il y a aussi les postes et les courriers de différents pays du monde, je pense à l'Angleterre en l'occurrence, qui sont entrés en grève pour les mêmes raisons.
Et si on regarde ce qui était désarmant d'une certaine façon, c'est que Amazon a fermé du coup ses entrepôts logistiques en France, mais que les autres entrepôts d'Amazon d'autre côté de la frontière, dans les pays voisins, par exemple au Luxembourg, ont pris le relais et qu'au final cela a dégradé le service d'Amazon en France sans pour autant l'arrêter.
Tout à fait, et ça c'est aussi lié à comment Amazon a décidé de structurer sa chaîne d'approvisionnement. Si l'on veut, c'est en créant des hubs, donc en créant des centres de distribution qui centralisent localement la distribution, que l'efficacité en temps normal, donc en temps non pandémique, du réseau de distribution Amazon est assurée. Sauf que ce type de structure n'est pas une structure distribuée. Pour faire court, si on fait tomber un hub, les autres se retrouvent évidemment à se repartir toutes les transactions qui passaient par ce hub-là, et donc du coup, ils se retrouvent en surcharge, et donc ils n'arrivent pas à suivre et à assurer le même niveau de service qui a déterminé, par exemple, que les services de livraison, quoique assurés pendant la pandémie, se sont retrouvés à être profondément dégradés, ce qui, par ailleurs, est assez paradoxal. Parce que dans ce contexte, dans le contexte du confinement, on s'est aussi rendu compte que ces services-là s'avèrent être des infrastructures presque essentielles, voire essentielles, et qui donc nous mettent face à la nécessité de les envisager comme un bien public qu'il faut à terme aussi envisager comme quelque chose de, on ne doit pas le nationaliser, au moins le collectiviser, pour le considérer effectivement comme quelque chose qui est au service d'une communauté.
J'aimerais qu'on revienne sur le télétravail. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous disiez que cela avait concerné de l'ordre de 25% des actifs dans les pays du Nord, comme la France et les États-Unis.
Mais aussi en Argentine.
Et qu'a-t-on justement remarqué en termes de télétravail? Comment s'est-il organisé?
Alors, il s'est organisé d'une manière que je n'hésite à définir que dégradée, donc un télétravail en version quick and dirty, donc rapide et sale, pour le dire en anglais. Parce que tout d'abord, il faut comprendre que le télétravail est une activité que jusque-là avait concerné essentiellement des cadres supérieurs et classes moyennes supérieures. Historiquement, ça veut dire que les dernières décennies, on avait atteint des niveaux de télétravail télétravail habituel, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient plusieurs jours par semaine depuis chez eux, qui ne dépassaient pas, pour un pays comme les États-Unis, le 6 ou 7% de la population active. Et qui sont-ils? Qui étaient-ils, ces 6 ou 7%? Eh bien, étaient des personnes qui, évidemment, avaient un pouvoir contractuel vis-à-vis de leur employeur. Donc, d'abord, ils étaient employés formellement, ils avaient un pouvoir contractuel, ils étaient bien positionnés, disons, à l'échelle sociale, au niveau de stratification sociale. Donc, encore une fois, c'était des catégories professionnelles plus élevées avec un revenu plus important, ce qui veut dire qu'ils avaient, par exemple, des habitations qui permettaient de mettre en place le télétravail. Donc, ils avaient suffisamment d'espace et parfois ils avaient aussi une répartition des tâches domestiques qui leur permettait par exemple de se consacrer pendant, que sais-je, 8 heures à leur travail. Ce qui s'est passé par contre pendant le confinement est qu'on a dû généraliser cette activité même pour des personnes qui avaient des logements trop petits, qui en plus devaient partager ces logements avec des enfants ou des jeunes gens en âge scolaire et qui par contre se trouvaient déscolarisés ou qui devaient plutôt suivre la scolarité depuis chez eux. Et donc ce qui s'est passé est qu'on s'est trouvé face à un moment de surcharge en termes de connectivité. Tout le monde veut se connecter au même moment, et en plus avec cette insistance absurde sur la visioconférence due aussi au succès commercial de certaines plateformes comme Zoom, et qui donc évidemment est très très demandeuse en termes de bande passante. Après, on avait un problème d'équipement, pas tous les foyers ont suffisamment d'écrans ou suffisamment d'ordi par exemple pour que tout le monde travaille, et en plus évidemment il y a la question, surtout pour les femmes, de manière vraiment élevée pour les femmes, de gérer en même temps une double ou triple journée de travail. Donc, par exemple, de s'occuper en même temps de leur propre travail, du travail d'éducation des enfants, davantage par rapport à avant la pandémie. Et en plus, il y a parfois des tâches domestiques qui, encore une fois, de manière inégale, sont réparties au sein des couples et au sein des familles, sans parler, évidemment, pour ceux qui avaient des parents âgés, la question de la gestion du care, donc de la prise en charge de ces parents âgés, s'ils étaient chez eux, à leur domicile, et donc ils avaient encore moins de mobilité que des personnes plus jeunes, ou encore dans des EHPAD. Et là, c'est un autre type de gestion de la crise, pour ainsi dire.
Et du côté des directions des entreprises, j'ai entendu une interview de vous où vous expliquiez qu'en fait, le télétravail avait été pensé comme une façon de simuler le travail présentiel durant cette période de confinement. On avait cherché à reproduire ce qui se passait au bureau, mais chez les travailleurs directement.
Oui, et ça c'est quelque chose qui a contribué énormément à la dégradation de ce télétravail. C'est-à-dire, s'imaginer que télétravailler signifie se connecter exactement à l'heure du début de, par exemple, la journée dans un bureau normal, ou en plus qu'il faut simuler via la visioconférence, les pauses café, les séminaires, les réunions. Donc finalement, considérer qu'il faut assurer le même niveau et avec les mêmes modalités d'interaction formelle ou informelle pour assurer la continuité productive a été le malentendu qui a déterminé cette dégradation du télétravail pendant le confinement. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation de surcharge de tâches à réaliser, même pour des personnes qui étaient arrivées, peut-être grâce à leur expérience, avant la pandémie, par exemple, à savoir gérer le moment où on accordait du temps aux collègues et le moment où, par contre, on prenait du temps pour soi pour travailler sur ses propres dossiers. Donc, dans ce contexte-là, on s'est retrouvé très souvent à se laisser envahir par des collègues qui n'avaient pas encore appris des règles qui ne sont pas des règles d'étiquette, mais tout simplement de distribution du travail, si l'on veut.
Et donc, une fatigue et une surcharge cognitive.
Oui, une fatigue et une surcharge cognitive. Quand même, il ne faut pas non plus considérer que cognitive signifie immatériel et donc moins fatigante qu'une fatigue en situation non pandémique. Il faut considérer que ça fait partie de la pénibilité. La surcharge cognitive, de savoir gérer plusieurs écrans, plusieurs canaux de communication, est quelque chose qui est très connu, très étudié et malheureusement très sous-estimé. Encore une fois, parce qu'on a une certaine tendance à le relégué dans le domaine du psychologique et donc finalement c'est dans ta tête. Non, c'est pas dans la tête. La fatigue cognitive est quelque chose qui pèse lourdement sur la santé mentale et sur la santé aussi physique des personnes en confinement. Alors, on n'a pas suffisamment de données pour savoir exactement quel est le coût en termes de pénibilité, en termes de stress, en termes de dégradation des conditions de santé des travailleurs du confinement, mais en même temps, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises de ce point de vue-là.
Ouvrons une petite séquence questions courtes, réponses courtes. Comment s'est déroulé votre confinement, Antonio Cassilli ?
Dans mon cas, de manière assez schizophrène, parce que ma compagne a fait exactement le même travail que moi. Donc, dans son cas, tout s'est transformé dans un moment d'épanouissement et de réalisation de tout un tas de projets qui étaient en souffrance. Et dans mon cas, par contre, c'est transformé dans une véritable catastrophe de multiplication des tâches à réaliser. Donc, j'ai travaillé à 400% de mes possibilités physiques et mentales.
De vous à moi, y a-t-il un moment où vous avez failli craquer et commander un plat en livraison ?
Non, jamais, parce que je suis un excellent cuisinier.
Très bonne réponse. On a très très peu parlé d'intelligence artificielle pendant ce confinement. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle ne va pas sauver le monde ?
Détrompez-vous, on en a parlé énormément et en général, tous ceux qui avaient proposé des prophéties qui ne s'étaient pas encore réalisées, qui disaient que tout le monde allait automatiser tous les processus cognitifs, ont ressorti les mêmes prophéties en disant voilà, là on va le faire, là on va y passer parce que de toute façon, pour pouvoir survivre au Covid, il faut tout automatiser, autant pour sauver les entreprises que pour protéger la santé des travailleurs.
Alors je le disais, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « En attendant les robots » et ce confinement a montré que, en gros, les êtres humains avaient besoin de leurs semblables. C'est une victoire pour vous, j'imagine ?
C'est une victoire amère, mais disons que d'un certain point de vue, c'est aussi une manière de dire que certaines analyses qui, par exemple, insistaient sur le rôle des plateformes et même sur l'hégémonie désormais des plateformes, ces analyses s'avèrent encore valables. Elles tiennent la route, hélas, parce que les plateformes sont là et elles prennent de plus en plus de place. On le voit au niveau de leur performance boursière et on le voit aussi au niveau de leur manière de gérer le travail humain. Lequel travail humain, par contre, s'avéra être plus visible qu'avant.
Fin de cette séquence questions courtes, réponses courtes. J'aimerais qu'on reparle de l'intelligence artificielle, la thème que l'on vient d'aborder rapidement. Chose intéressante, les intelligences artificielles, vous l'avez déjà bien montré dans un documentaire auquel vous avez contribué, vous étiez en gros directeur éditorial, d'Invisible, les travailleurs du clic, un documentaire en 4 épisodes dont on a parlé dans l'atelier des médias du 22 février dernier avec Julien Goetz et Henri Poulain. Qui montrait en gros qu'il y avait plein de petites mains qui servaient au quotidien à nourrir et rendre intelligentes les intelligences artificielles. Ce que cette crise a montré aussi, et ce que vous pensez que cette crise peut créer, c'est que les intelligences artificielles vont devenir sans doute moins intelligentes dans les mois qui viennent. Expliquez-nous.
Alors, certaines intelligences artificielles, je pense surtout à certains algorithmes de filtrage, par exemple des contenus problématiques sur les plateformes sociales comme Facebook, YouTube, Twitter, se sont avérées décidément moins intelligentes que d'habitude, ou alors encore moins intelligentes que d'habitude. Et c'était quelque chose qui a été annoncé par les concepteurs et les propriétaires même de ces plateformes. Déjà à la moitié du mois de mars, Twitter annonçait que la modération sur leur réseau allait se faire de manière moins efficace que d'habitude. Pourquoi ? Parce que les équipes de modérateurs, donc les petites mains de la modération qui semblent être automatiques, eux, ils pouvaient pas travailler depuis chez eux et finalement, ils devaient rester inactifs. Et donc, les algorithmes étaient livrés à eux-mêmes et voilà, ils ont réalisé parfois des décisions draconiennes ou complètement inadaptées ou tout simplement ils n'ont pas filtré ce qui a eu par effet assez paradoxal de convaincre pas mal de personnes que la conversation publique sur ces réseaux devenait complètement dominée par le spam, par l'agressivité, par les fake news. Non, c'est tout simplement qu'il y a eu moins de filtrage et donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Après, la question de les petites mains de l'intelligence artificielle est une question qui se décline de manière extrêmement variée selon le secteur d'activité. Ce qui s'est passé, par exemple, pour les plateformes dites de micro-travail, c'est les plateformes dans lesquelles des travailleurs sont payés très très faiblement pour réaliser des tâches très simples qui servent finalement à produire des données qui calibrent les intelligences artificielles et qui permettent à ces intelligences de réaliser, par exemple, l'apprentissage dit automatique. Alors, ces plateformes-là se sont retrouvées dans une drôle de situation. Là aussi, elles ont eu une explosion de l'offre de travail, c'est-à-dire de personnes qui proposaient de travailler pour ces plateformes, qui se sont inscrites sur ces plateformes. Donc, une plateforme parmi les plus célèbres qui s'appelle Appen, qui est pas connue certainement au grand public, mais elle a vu une explosion de 31% des nouveaux inscrits. Et face à ça, qu'est-ce qu'elles ont dû faire, ces plateformes? Eh ben, s'inventer de nouveaux marchés. Alors, en l'occurrence, il y avait deux marchés qui, même avant la pandémie, étaient très présents. Le premier, en absolu, c'était le marché automobile. Donc, en gros, c'était les intelligences qui servaient pour produire ou pour conduire les véhicules dits autonomes. Il y a eu évidemment une baisse importante des requêtes de la part d'entreprises qui produisent des voitures pour des micro-tâches ou pour des données de ce type-là. Par contre, le deuxième secteur d'activité était, même avant la pandémie, la santé. Alors, évidemment, ce qui s'est passé est que ces entreprises, ces plateformes de micro-travail se sont toutes redirigées vers les applications santé. Et donc, on a eu une explosion d'applications santé, parfois extrêmement intéressantes, par exemple appliquées à la recherche de vaccins ou de tests. Il y a eu même des plateformes qui ont proposé de réaliser des tâches gracieusement, c'est une façon de parler, c'est jamais gratuit, pour par exemple des équipes qui développaient des vaccins liés au Covid ou qui par exemple cherchaient à faire un suivi épidémiologique. Mais de l'autre, on a eu aussi une multiplication de ces solutions miracles du type, par exemple, l'application qui est capable de détecter le Covid-19 à partir de votre manière de tousser. Ces applications-là sont des applications qui sont certainement plus légères comme type d'application, mais qui attestent d'abord de cette volonté des plateformes de micro-travail de capitaliser sur la crise finalement et de chercher à garder des parts de marché dans un contexte de restriction très forte des activités, parce que quand même on est face à quelque chose qui au début semblait être une récession et qui désormais s'avère plutôt être une dépression et c'est aussi un test pour ces plateformes, parce que c'est la première récession / dépression dans laquelle des plateformes sont impliquées et présentes sur le marché. Et on ne sait pas qui va survivre d'ici un an ou deux à ce choc. On voit déjà des plateformes, là je pense plutôt à Uber et Airbnb, qui ont dû drastiquement réduire leur activité et aussi licencier des effectifs. Là, ce n'était pas des travailleurs des plateformes qu'ils ont licenciés, mais leurs propres salariés. Et donc, dans le cas de Airbnb, je pense que c'était de l'ordre de quelques milliers de personnes. Dans le cas de Uber, c'était presque 6600 personnes.
Donc, que doit-on faire pour justement le monde d'après dont certains parlent? Doit-on aller vers davantage de régulation? Et question toujours provoque, mais qu'on aime bien poser à des spécialistes comme vous, faut-il démanteler certains géants du numérique?
Alors, démanteler certains géants du numérique est une perspective qui, pour l'instant, se décline surtout comme, disons, mettre en place des règles de antitrust, donc contre la concentration de ces oligopoles. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Google, d'Amazon et à une époque aussi de Facebook. C'est quelque chose qui, évidemment, relève presque d'une posture, si l'on veut, libérale classique, c'est-à-dire libérale comme on pouvait être libéral au XIXe siècle, c'est-à-dire il faut fragmenter ces grandes entreprises pour faire en sorte que la concurrence marche mieux. À cette posture libérale pro-marché concurrentiel s'oppose par contre une autre posture qui devient de plus en plus audible dans ces contextes-là et qui, par contre, était portée même avant la pandémie par un signe économiste, je pense à Krugman, qui commençait à se dire, bah, écoutez, là, historiquement, quand une entreprise est devenue trop importante en termes de taille et trop importante en termes de son poids relatif dans l'économie d'un marché ou d'une nation, on l'a nationalisée. Et donc la question devient, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ces entreprises comme plus orientées vers le bien et le bien-être collectif.
Et là-dessus, ce que vous expliquez, c'est qu'il faut mettre ces entreprises face à leur propre fragilité. Expliquez-nous.
Alors, la fragilité, c'est une fragilité que, effectivement, consiste effectivement à voir comment elles vont survivre à cette épreuve de la crise. Mais il y a aussi une fragilité qui est donnée par le fait que ces entreprises survivent, ces plateformes survivent surtout en captant la valeur qui est produite par des masses de travailleurs, dans certains cas des travailleurs reconnus en tant que tels, quoique bien sûr encadrés comme auto-entrepreneurs, non salariés, etc., mais quand même ostensiblement des travailleurs, et dans d'autres cas, des personnes qui produisent de la valeur pour ces entreprises, bah, c'est vous et moi, en tant que producteurs inconscients presque de données, par exemple pour Google ou pour Facebook, et donc nous aussi, nous produisons de la valeur. Ça, c'est la fragilité, et ça, c'est aussi le risque d'un retour de bâton en termes de régulation sur ces plateformes. Et ça, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une discussion publique depuis, figurez-vous, 2012. Depuis 2012, par exemple, on s'interroge sur comment mettre ces plateformes face à la nécessité de rémunérer à leur juste valeur, toute la valeur justement, qu'ils captent à partir de collectivités humaines. En 2012, en France, par exemple, le Bercy avait produit un rapport qui proposait une fiscalité du numérique capable de taxer les grandes plateformes à la GAFAM selon le travail invisible des utilisateurs des dites plateformes. Donc ça, c'est quelque chose qui est en effet, si elle passait comme ligne, quelque chose qui risquerait de mettre ces plateformes vraiment dans une situation complètement différente par rapport à aujourd'hui.
Et justement, vous disiez tout à l'heure que certaines plateformes ne vont peut-être pas être capables de survivre à la crise. Dans une ambition, une situation un petit peu optimiste, comment est-ce que ce monde des acteurs des plateformes pourrait se reconfigurer?
Alors, c'est pas à moi d'être optimiste pour les plateformes, mais en même temps, il faut pas non plus, alors pour les plateformes telles qu'elles existent aujourd'hui, mais en même temps, il faut comprendre que les plateformes capitalistes qui existent aujourd'hui ne sont pas les seules plateformes possible. Une autre plateformisation est possible, pour reprendre un célèbre slogan d'il y a plusieurs années, et cette plateformisation passe par exemple par une transformation des plateformes capitalistes dans des structures qui prennent en compte la dimension sociale. Je pense par exemple au mouvement qui existe déjà et qui prend de l'envergure du platform cooperativism, donc des coopératives plateformes qui sont capables de redistribuer la valeur captés et qui font participer les utilisateurs même à la gouvernance même des plateformes. Ça, c'est quelque chose qui est un mouvement qui existe depuis la moitié des années 10 et qui prend de l'envergure en Europe, aux États-Unis, dans des pays émergents comme l'Inde ou l'Afrique du Sud. À part ça, il y a aussi, pour pousser la réflexion encore plus loin, une origine de la notion même de plateforme qui est entièrement enracinée dans des mouvements politiques très anciens qui remontent il y a plusieurs siècles, donc au XVIIe siècle en Angleterre par exemple, c'est les premières personnes qui commencent à parler de plateforme en termes de programme politique, qui était un programme politique lié par exemple au dépassement de la propriété privée, donc vous voyez déjà de quel type de mouvement il s'agissait, ou alors justement l'abolition du travail salarié. Et c'est quoi l'abolition du travail salarié? C'est une perspective qu'aujourd'hui on n'ose pas proposer. et qui quand même continue d'être très débattu, même au sein de syndicats de travailleurs. Je pense par exemple en France au syndicat des livreurs qui s'appelle CLAP et qui est lié aussi à des plateformes coopératives. Donc peut-être pour sortir du monde des plateformes prédatrices et exploitatrices, il ne faut pas non plus imaginer que la seule solution, c'est de faire rentrer tous ces travailleurs dans la subordination encadrée par un contrat de travail, mais même imaginer quelque chose de beaucoup plus audacieux du point de vue politique, de un monde dans lequel on pourrait, si on le choisit, ne pas travailler, ou dans lequel même le travail informel qu'on réalise chaque jour, que ça soit notre travail dans le cadre de notre famille, ou dans le cadre de notre communauté, ou dans le cadre de notre propre vie et de notre propre socialité, soit reconnu en tant que tel et aussi rémunéré de manière adéquate.
Dernière question, Antonio Cassilli. Pour celles et ceux qui nous écoutent et souhaiteraient se soigner de leur dépendance aux plateformes et peut-être, qui sait, reprendre le contrôle de leur vie numérique, par où commencer ?
Alors, par où commencer ? Commencer par, moi je reste après tout très proche de certaines approches punk hacker, donc l'idée de base est commençons à imaginer une plateforme à nous, ça veut dire commençons à imaginer des plateformes alternatives. Je ne suis pas un technophobe, je n'ai jamais été pour une déconnexion forcée ou pour une décroissance technologique, mais plutôt pour une idée de plateforme alternative qui commence par le fait de enraciner les plateformes dans nos désirs, dans nos souhaits, dans nos revendications et dans nos vies.
Merci beaucoup Antonio Cassilli, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à Télécom Paris et chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Votre dernier livre, c'est « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Il est paru en 2019 au Seuil. Je vous dis à bientôt.
Merci à vous et à bientôt.
C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Partagez-la sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Simon de Creuse était comme chaque semaine à la réalisation et je le remercie. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts. La semaine dernière, par exemple, avec André Gunther, enseignant-chercheur à l'EHESS, on a analysé la vidéo de la mort de George Floyd, des images terribles à l'origine de la vague de protestations qui secoue actuellement les États-Unis. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.